Franck Provost, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir chez vous en cette première semaine de l'année. Et j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux, ainsi qu'à toutes vos équipes pour cette nouvelle année.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, de toute façon, c'est agréable. On a un petit déjeuner, là, tout va bien.
Voilà. Et nous allons passer un moment agréable, très agréable.
J'en suis absolument certain.
Merci, Franck Provost. Je voudrais commencer par une citation de Nietzsche. Et on lui a demandé qui il était, et voilà ce qu'il a répondu. Tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire, deviens sans cesse celui que tu es. Franck Provost, et vous, qui êtes-vous?
Ah, qui je suis? Ben effectivement, cette citation est tout à fait juste. Enfin, on essaie d'être au moins ce qu'on pense être, et il faut être surtout, à mon avis, je pense, naturel. Et c'est la seule façon d'être soi-même. Quoi. Moi, qui je suis, vous savez, je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime écouter, j'aime les contacts, voilà. Je pense que dans la vie, c'est important d'écouter les autres. Voilà, tout simplement, et puis on fait son parcours du mieux que l'on peut, quoi, avec évidemment pas toujours, on suit son parcours. Moi, j'ai jamais fait de prévision à long terme. Voilà, quand par exemple j'ai ouvert mon premier salon, ou quand j'ai commencé plus simplement dans la coiffure, je n'ai pas imaginé que je pourrais peut-être monter une entreprise de cette façon. Donc j'y vais étape par étape.
Et quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle, très rapidement?
Alors, les grandes lignes de ma carrière, ça a été, vous savez, bon, j'ai commencé tout simplement en province, dans un petit salon. J'ai fait vraiment un parcours tout à fait classique, puisque c'était soit bon, on fait des études, soit à cette époque, c'était moi j'étais pupille de la nation, et parce que mon père était militaire, et j'avais la possibilité d'entrer dans une école militaire à La Flèche, le Prytanée militaire, et puis je savais pas trop ce que je voulais, et voilà, et ma maman rentre chez son coiffeur et me dit « Et la coiffure, ça te plaît ?» Et moi, d'abord, j'étais très jeune, et pour être franc, j'étais jamais rentré dans un salon de coiffure pour dame. Donc, j'ai dit « Pourquoi pas, je peux essayer ?» Et puis voilà, j'ai fait donc un apprentissage de coiffure sans vraiment sans vraiment être passionné, quoi. Et puis, mon père me dit un jour, tu sais, c'est bien, tout va bien, mais bon, la coiffure, c'est un métier de mode, et la mode, ça se passe pas dans des petites villes en province. Il faut monter à Paris. Donc je suis monté à Paris, comme on dit, quoi. Voilà, et puis tout simplement, là, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et à faire. Et puis, des amis m'ont emmené dans un club de coiffure qui s'appelait à l'époque le Cercle des Arts et Techniques, où il y avait des concours. Et donc, le fait de ces concours m'a vraiment donné le déclic et révélé, parce qu'il y avait un esprit de compétition. Et là, finalement, je me suis dit, il faut se battre. Et donc, j'ai travaillé, je me suis entraîné, et il y avait aussi... c'était là encore quelque chose de convivial, et donc comme ça j'ai fait des concours, j'étais champion de France, champion du monde, enfin j'ai voyagé aussi pour des grandes marques de coiffure comme Vela, L'Oréal, en travers le monde pour faire des exhibitions de coiffure, vous savez, sur scène avec tous les coiffeurs. Donc c'était un côté un peu sympa. Et puis j'ai ouvert mon premier salon en 1975 à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai ouvert un salon tout à fait tranquillement, qui était, il n'y avait pas de clientèle, j'étais tombé, j'avais pas d'argent, c'est ma famille qui m'a aidé pour ouvrir ce premier salon. Et donc, avec des copains, on a repeint, c'était un salon avec des grosses fleurs, enfin comme ça se faisait à l'époque. Peint en blanc, donnait un côté moderne, et on fait ça le week-end, et le mardi j'ai ouvert. Et puis le succès est vite arrivé, pour plusieurs raisons déjà. Donc, bon, j'avais aussi ces titres de champion de France et tout ça. Et puis j'ai surtout institué à cette époque-là, dans, même si Saint-Germain-en-Laye, c'est aujourd'hui c'est Paris, c'est ça. Mais néanmoins, c'était quand même un peu la province. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai donc fait la journée continue. Déjà, parce que sinon, les commerçants s'arrêtaient à midi, reprenaient à 14h. Voilà. Donc moi, j'ai fait la journée continue. Et puis, le 100 rendez-vous. Donc j'avais institué ça. Et c'était quelque chose de nouveau. Et donc, le succès est tout de suite arrivé. Et donc, ça a bien fonctionné. Et là, je me suis dit, bon, tout va bien, tu as un salon qui marche bien. On avait une belle équipe, un salon d'une vingtaine de personnes. Et puis, je me suis dit, il faut gagner la capitale. Parce que, bon, même si tu as la plus belle affaire d'ici, à l'époque, les journalistes ne se déplaçaient pas. Il fallait être là dans le 8e. C'était important pour être reconnu, quoi. Et donc, j'ai ouvert un deuxième salon 3 ans et demi après, donc avenue Franklin Roosevelt, qui était également une affaire sinistrée. Et là, donc, je me suis un peu départagé. J'ai départagé les équipes que j'avais formées et on a commencé comme ça. Et puis, j'ai fait ça pendant une... J'ai ouvert... Puis là, j'ai eu une réflexion aussi. Je me suis dit, bon, voilà, moi, je suis. Avant, je travaillais dans un salon, je suis parti parce que, bon, à un moment donné, il faut ouvrir son salon, faut continuer sa carrière. Et moi, j'avais des bons collaborateurs avec moi, ou collaboratrices, avec, qui avaient la même philosophie, qui avaient la même façon de travailler, et qui étaient vraiment une équipe. Et je me suis dit, bon, ces gens-là, si je fais rien, je vais les perdre. Et ça serait dommage, en plus, ça sera des concurrents. je me suis dit, bon, on va ouvrir d'autres salons. Et au fur et à mesure, j'ai ouvert d'autres salons. Et là, je les associais dans ces affaires. Ils n'amenaient pas d'argent. Comme moi, j'avais bien fonctionné. Les banques me faisaient confiance pour continuer. Et je leur donnais jusqu'à 49% des parts avec leurs résultats sur 4 ou 5 ans. Et ça a été vraiment la base de l'entreprise, quoi. Et donc là, on a fait une vingtaine de salons sur ces 20 premières années avec des collaborateurs et tout. Et puis ensuite, bon, bah, je me suis dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc là, j'ai mis en place aussi une structure pour ouvrir à la franchise.
C'est ça.
Et puis, on a commencé aussi à racheter des groupes.
Et là, maintenant, vous avez combien de... Vous êtes un grand empire.
Aujourd'hui, on est présent dans 30 ou 35 pays.
D'accord, oui.
À l'international. Et puis, ça représente aux alentours de 3500, 4000 salons répartis.
Félicitations, c'est un...
À l'international, alors, avec de la franchise et également donc des salons en direct et les salons en direct représentent avec les boutiques à peu près peu plus de 1000. Quoi.
Félicitations, c'est un véritable empire. Franck Provost, quand je suis allé...
Il représente en gros plus de 30 000 personnes qui travaillent sous les marques. Hein. Oui. On a racheté des marques aussi.
C'est ça, tout à fait. Non, c'est super. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis aperçu que l'on vous définissait comme un artiste de la coiffure. Qu'est-ce qu'un artiste ? Pour vous, êtes-vous un artiste ? Et si oui, quelle définition donnez-vous à cet artiste de la coiffure ?
J'ai toujours un peu de... Un artiste, comme vous venez de le décrire, c'est... ça peut tellement être large. Moi, pour moi, un artiste, c'est des grands peintres, c'est... Voilà, c'est... Je ne peux pas accepter qu'on me mette dans cette catégorie parce que, voilà, d'abord, nous, c'est tellement... ce qu'on fait, c'est éphémère. C'est éphémère, c'est pas comme un tableau. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est
Et c'est... comment vous qualifiez-vous alors si...
Alors, il y a un côté artistique, on va dire. Mais de dire en même temps que nous sommes des artistes, alors on peut dire que nous sommes des artistes, mais je mets vraiment des restrictions parce que, effectivement, il y a beaucoup de coiffeurs. Il y a beaucoup de coiffeurs. Et qu'est-ce qui fait la différence d'un coiffeur avec un autre? C'est justement ce petit côté différent, cette petite patte qui va faire la différence comme, comme un. Comme un peintre, comme un écrivain, qui va avoir un style, qui va avoir quelque chose. Alors, là, je veux bien qu'on nous dise que nous sommes des artistes. Parce qu'il y a aussi ce petit truc qui est différent.
C'est voilà. Ce que dit Bergson, ce supplément d'âme. Il appellera ce supplément d'âme, ce qui distingue voilà. Finalement des...
Oui, c'est assez juste, parce que... Comment le définir, quoi?
C'est ça.
C'est juste, d'abord, souvent, c'est souvent quelque chose de... Je ne trouve plus le mot que je voulais dire, mais bon, c'est on peut trouver ça bien, et puis l'autre va trouver ça très bien, c'est comme ça, quoi. Oui.
Alors, une autre question, peut-être étonnante, mais quelle définition donnez-vous aux cheveux? Qu'est-ce qu'un cheveu?
Alors, le cheveu, c'est une matière vivante.
Oui.
Donc voilà, on peut... C'est effectivement complètement... D'abord, on définit souvent... on peut presque définir avec le cheveu. Bon, déjà, scientifiquement, c'est clair, avec l'ADN.
C'est ça.
On définit exactement la personne. Mais je trouve que nous, juste à l'œil nu, nous les coiffeurs, on peut quasiment donner un peu le profil de la cliente.
Ah oui.
Enfin, du client, enfin de...
Avec moi, je sais pas quel profil.
Ah ben là, c'est pas possible avec vous.
Et alors, je suis allé regarder la définition du cheveu par Victor Dixon. Et voilà ce qu'il souligne: les cheveux sont comme un flou qui gomme les défauts des visages, un imparfait, mais qui voile aussi la perfection des visages sans défaut. Comment réagissez-vous à ça?
Alors, non, mais je suis complètement d'accord. Voilà, je parlais du cheveu, donc l'ADN du cheveu. Mais après, c'est justement, le côté artistique de la chevelure, parce que c'est pas un cheveu, c'est vraiment une chevelure. Effectivement, on peut donner un style à quelqu'un, on peut gommer des imperfections, justement, avec la morphologie du visage. On peut faire des franges, on peut faire enfin plein de choses qui vont changer, qui vont cacher ou améliorer, quoi. Mais là, c'est justement la chevelure.
C'est ça.
Et fatalement, on arrive aussi à faire des choses même extravagantes et tout avec le cheveu. C'est une matière qui se travaille, qui est vivante. Et par exemple, moi, je me pose toujours la question, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, en chirurgie, maintenant, on opère avec des robots, quoi.
C'est ça.
Et je me pose toujours la question, est-ce que dans la coiffure, un jour, ça sera possible? Parce que bon, on voit des histoires de robots où on va dessiner, des choses comme ça, mais le cheveu se travaille pas de la même façon. Parce que vous avez un cheveu crêpé, un cheveu frisé, un cheveu raide, tout ça, c'est complètement différent. Et je ne sais pas si un jour, avec ce côté artificiel, je ne sais pas si on y arrivera.
Oui, et quel regard alors avez-vous sur ce côté? Imaginons qu'un jour ça puisse arriver. Vous, en tant que coiffeur, quel regard et quelle réflexion avez-vous? Autrement dit, est-ce que ça peut faire perdre aussi des emplois, ou au contraire, ça peut...
Alors,
parce qu'il y a plus ce côté humain que le coiffeur avec son...
Ben oui, c'est effectivement, c'est des questions que je me pose.
Oui.
Sur lesquelles je ne sais pas forcément répondre, parce que je crois que ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, en même temps, tout devient possible. Pourquoi est-ce qu'on aurait imaginé un chirurgien opérer comme ça? Alors bon, après, peut-être que nous, les coiffeurs, on pourrait peut-être opérer de la même façon. Mais j'avoue que je suis sceptique. Alors, est-ce que ça ferait perdre des emplois? Sûrement. Mmh. Tout ce qui est aujourd'hui qui devient automatique, enfin robotique et tout, fait perdre des emplois. Et ça fait perdre aussi, sans doute, la magie. C'est comme ça. Si on fait un... Je reviens toujours au peintre. Oui. Un tableau qui va faire du Rembrandt ou un truc comme ça... ça perd la magie de tout, quoi. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne chose. Pas sûr. Vraiment, bon.
Oui. Franck Gros, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que je trouvais ça hyper intéressant, sur l'identité. Juste avant de parler d'identité, une question sur les cheveux. Que donne à voir les cheveux sur une personne? Est-ce que finalement... nous avons un dialogue avec nos cheveux. Je cite Baudelaire peut-être pour vous mettre sur la piste. Et voilà ce que dit Baudelaire. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un dialogue intime avec notre chevelure? Autrement dit, est-ce que notre chevelure, c'est notre identité?
Il est clair que c'est notre identité, notre chevelure. D'ailleurs, quand on veut cacher son identité, on change souvent de couleur.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Voilà, et c'est... Mais on constate qu'on a... Quand on a trouvé son style, alors quelquefois, bon, ça prend un peu de temps et tout, mais... Chaque individu finit par trouver son style et après, bon, on fait quelques petites fantaisies, des petites incartades, des petites infidélités à son style. Mais ça, c'est la vie, c'est normal, c'est bien. Mais on revient toujours quand même à son style et effectivement, je pense que ça fait vraiment partie de notre identité, le cheveu.
Mais alors, si nous changeons de coupe de cheveux, etc., nous faisons des couleurs, j'ose pousser la question, d'une certaine manière, n'y a-t-il pas une certaine crise identitaire? On se cherche. Est-ce que finalement, par nos cheveux, on essaie de se chercher, de se donner un style de...
Ben c'est clair, bien entendu. C'est là où je dis, bon, il y a un moment, souvent, quand on démarre dans la vie, on voit des jeunes, ils se cherchent, et on cherche son style, effectivement, mais... Après, c'est pour ça que je dis, quand on finit par trouver vraiment son style, donc il devient son identité, et même si quelquefois on a envie de fantaisie, on revient toujours à ce style parce que c'est ancré en nous, quoi, tout simplement. Quoi. Et même, on peut devenir quelqu'un d'autre avec la coiffure, par la couleur, par tout ça, et que... Bah, moi, je connais des femmes qui sont brunes, par exemple, à l'origine, et qui sont devenues blondes, et qui ont trouvé un style, et qui, en aucun cas, ne pourraient redevenir brunes. C'est, voilà, donc on acquiert ce style, on le cherche, et après, même si on fait des petites... on reste fidèle à son style.
On reste fidèle. Et donc, dans la chevelure, par la chevelure, pouvons-nous dire que, là aussi, d'une certaine manière, nous paraissons, nous ne sommes pas, nous paraissons celui qui... j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, le mot « devenir ». J'essaie de devenir, finalement, quelqu'un par ma chevelure. Si j'essaie de devenir quelqu'un, c'est que je ne suis pas moi-même. Et donc, je parais.
Oui, bien sûr. Mais justement, ça, c'est quelque chose qui s'acquiert et... Et une fois qu'on a trouvé son style, on y reste en général fidèle, quoi. Sauf si on veut se cacher, quoi.
Oui, c'est ça, sauf si on... Alors, pour vous, je voudrais aborder un autre thème sur le beau, sur l'esthétique. Mmh. Vous êtes au service de la beauté de la personne. Comment définissez-vous la beauté?
Alors,
est-elle subjective, objective?
Bah, elle est, je dirais, c'est un peu les deux, quoi. Bon, là, on parle de la beauté extérieure.
Extérieure.
Hein. Alors, pas de la beauté.
Je vais en parler juste après.
Et effectivement, moi, je trouve que justement notre métier, c'est le plus beau. Enfin, moi, j'ai toujours aimé partir de quelque chose qui est qui n'a pas de je dirais pas le mot pas beau, parce que je trouve que ça n'existe pas, le mot pas beau. On peut tout, voilà, c'est quelque chose de, on peut trouver du beau partout. Alors il y a des personnes qu'on peut évidemment on va dire, ah, c'est une belle personne physiquement et tout, mais justement c'est le plus beau de notre métier, c'est de partir d'une base qui est, je sais pas, quelconque, on va dire, c'est pas le mot que je voudrais dire parce que c'est pas très joli, naturel, quoi, et de justement par notre métier de couper, de transformer, de faire de la couleur, de transformer et de révéler justement la beauté qui ne se voyait pas, quoi.
Oui. Non, c'est intéressant. Alors, vous avez devancé ma question qui va complètement dans ce sens. Est-ce que finalement, le coiffeur, ce n'est pas celui qui rend visible l'invisible qu'est l'âme?
Alors, l'âme...
La beauté de l'âme, la beauté du...
Oui, certainement. Quand on a transformé quelqu'un, qu'on a finalement... révéler la personnalité de quelqu'un, ça change sa façon d'être.
Ça
les transforme, si on les sublime par le côté physique, ça change leur façon d'être, la façon de s'exprimer, de se comporter, c'est incroyable. Même quelquefois, vous savez, il y a quelque chose qui est parlant. Moi, j'ai été beaucoup dans les centres de coiffure, coiffeurs, et puis vous avez des clients qui viennent, vous les coiffez chaque semaine, enfin, voilà. Et puis, à un moment donné, vous avez la cliente que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, d'ailleurs, qui rentre et qui s'adresse à vous. Je veux changer.
Vous coupez les cheveux.
Vous coupez les cheveux, vous faites ce que vous voulez, je veux changer. Ça veut dire que ces gens-là qui s'adressent à nous, c'est qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas.
Oui.
Quand ils arrivent comme ça, ça c'est clair. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, et c'est là où nous, on doit... c'est pour nous, c'est formidable, parce que là on part de quelqu'un qui veut changer totalement, et donc, quand on fait ça, leur comportement est différent. Est différent. C'est ce que c'est pour ça que je vous parle souvent, c'est sentimental.
Oui. Hein,
donc, on a un rôle très important à ce niveau-là.
Non, c'est intéressant. Complètement, vous avez un rôle, une fonction d'écoute. Vous êtes, quoi, je dirais, d'une certaine manière, un psychologue aussi qui...
Bien sûr. Ça, je suis totalement... Alors, là encore... On va pas aller trop sur c'est un peu comme l'artiste, mais nous sommes on doit souvent les patients, c'est pas les patients, mais les clients viennent chez leur coiffeur aussi pour pouvoir parler. Oui. Les gens sont aussi souvent seuls, ça peut arriver, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et pourquoi ce métier incite à la confidence?
Oui. Et c'est la question que j'allais vous poser.
Je me suis souvent posé la question, alors est-ce que c'est le côté tactile? C'est possible aussi. Est-ce que c'est le côté aussi, on est là pour écouter puis les rendre plus beaux? Mais il n'y a pas d'autre métier où les gens ont envie de se confier.
Ah oui.
Comme avec leur coiffeur. Parce que bon, ils ne peuvent pas faire ça chez le dentiste. Hein,
c'est
nous, on est là pour les écouter et les rendre plus beaux. Et puis, il y a une relation de confiance qui s'installe, et que ça soit dans n'importe quelle couche sociale de la société. C'est... Donc, nous sommes un peu des psychologues.
Effectivement. C'est ça. Mais alors, est-ce que dans la formation que vous donnez dans à vos salariés, par exemple, il y a un moment aussi, une formation à l'écoute? Est-ce qu'on peut écouter, on peut entendre sans écouter?
Complètement. Alors nous, on doit écouter sans répéter.
C'est ça, vraiment la confidence, c'est voilà. Le secret professionnel. Quoi.
Exactement. Et ça fait effectivement partie de la formation de notre métier. D'abord, je pense que si on veut bien faire ce métier, il faut, comme je l'ai dit en commençant, il faut aimer les autres, il faut aimer les gens, et pour aimer les gens, il faut les écouter.
Oui.
Voilà, c'est la qualité première que je demande à un coiffeur, parce que sinon, bah voilà, on est des automates, on coiffe.
Voilà,
et nous, notre métier, c'est effectivement de s'intéresser aux autres. Et ça, c'est primordial.
C'est primordial. Oui. Puis, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi le côté tactile. Donc, vous prenez soin de la personne, le bien-être de la personne dans toutes ses dimensions.
Voilà, donc les gens, tout le monde, les clients sont en condition. Quoi. Donc, je pense que ça fait partie que chez le médecin, on est inquiet, le ophtalmo, tout ça. Que nous, c'est pour...
C'est vrai.
Gens peuvent parler, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent... nous raconter leur vie, on peut, voilà. Et je pense que je ne connais pas d'autres métiers qui incitent autant à ce côté, et c'est ce qui est intéressant aussi dans ce métier, parce que on a la chance, nous, avec notre métier, de coiffer toutes les couches sociales de la société, aussi bien la vendeuse du supermarché que la cultivatrice, que le président de la République. Et donc, ça n'a pas de prix, ça. Et en plus, je pense que souvent, nos coiffeurs s'ils savent écouter, s'ils savent lier je dirais pas, pourquoi pas des amitiés même avec leur clients, c'est un côté formidable, parce que ça permet de s'élever soi-même quand on écoute les autres, de renvoyer l'ascenseur, de parler, tout en restant toujours à notre place. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quelquefois on peut aussi évoluer avec une clientèle qui il faut être content pour eux, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas essayer d'être comme eux, on est là pour écouter.
Il faut rester soi-même.
Il faut rester soi-même, toujours rester.
Ça c'est le secret. Franck Provost, deux questions. Tout à l'heure, vous avez défini d'une certaine manière le coiffeur comme celui qui rend les personnes belles. Et je voudrais citer Ovid, qui parle de la beauté de la manière suivante. « La beauté est un bien périssable. Avec les années, elle ne cesse de décroître. Pour relever ta beauté, forme-toi un esprit à l'épreuve du temps. C'est le seul bien qui nous accompagne jusqu'au tombeau. » Comment réagissez-vous à cette belle citation, je trouve, d'Ovid?
Oui, c'est sûr. Quand cette citation, elle est terrible, parce que c'est vrai que... La vieillesse, c'est de vieillir, c'est la dégradation de tout, de son corps, de son esprit, de tout ça. Donc il faut effectivement, se forger à une autre philosophie. Quoi. Faut être heureux de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est surtout, de notre façon de vivre. Est-ce qu'on est heureux avec, en prenant notre café, il faut se faire des trucs. Il faut que ça soit simple, et on évolue dans le temps, Il ne faut pas essayer d'aller contre le temps, quoi, parce que ça ne change rien. Nous, quand même, les coiffeurs, on est là pour essayer de cacher un petit peu tout ce genre de choses. Mais si on parle vraiment, si je parle moi, pour moi-même, par exemple, c'est vrai que c'est de vieillir, c'est pas très agréable, mais il faut quand même être heureux, parce que bon, voilà, si on est en bonne santé, si tout va bien, si on a des rides après, ces rides-là, finalement, c'est peut-être des rides qui sont des rides de la vie, peut-être de bonheur, de boss aussi, de tout, mais finalement, c'est l'expérience et c'est la sagesse, quoi. C'est la sagesse, voilà. Il faut vivre avec son temps et pas essayer de vouloir à tout prix rester. On peut pas. On est tous égaux. On est égaux devant le temps.
Mais vivre l'instant, peut-être.
Voilà, il faut essayer de se maintenir, d'avoir. Je pense que ce qui est important, c'est pas le côté physique finalement, c'est le côté de savoir toujours être dans, de pas être dépassé par le temps, par s'intéresser aux choses, la lecture, la politique, aux gens, aux personnes, tout simplement, parce que souvent. Comme on dit, les vieux, quelquefois, on les aime pas parce que ils s'intéressent à rien, ils sont grincheux, ils sont ceci, cela. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut éviter. Et si on est bien dans sa tête, il faut être toujours ouvert aux autres, comme quand on avait 20 ans.
Je trouve que vous avez une très belle sagesse. Et ma dernière question, c'est pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir ?
Alors, effectivement, quand on est jeune, on a l'impression que tout ce qui est. Tous les autres qui ont réussi quelque chose avant, c'était avant et que c'est plus possible, c'est trop tard. Et ça, je trouve que c'est une erreur, c'est jamais trop tard. Par exemple, moi, je dis à mes jeunes coiffeurs, le parcours que j'ai fait. Je dis, c'est la vérité. Je suis certain qu'on peut le refaire encore aujourd'hui, et sans doute encore mieux. Et tout. Ça, c'est positif. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je constate ça par rapport à mes petits-enfants. Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire.
Oui.
Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils arrivent à 19, 20 ans, et ils ne savent toujours pas. Ils n'ont pas de... Ils manquent de passion. Ils n'ont pas de passion. Est-ce que tu passes ton permis de conduire ? Oh, j'en ai pas besoin.
Oui.
Est-ce que tu veux ceci ? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes ? Je sais pas. Et ça, c'est terrible. Et là, je trouve que aujourd'hui. Moi, je le dis souvent dans les instances professionnelles, on ne fait pas assez appel à des personnes qui ont construit quelque chose, une entreprise. Je parle pour moi, mais dans tous les métiers, c'est comme ça, le métier d'artisanat ou autre chose. Il faut qu'on puisse porter la parole à ces jeunes dans les lycées, dans les collèges et tout. Il faut qu'on les fasse rêver. Et souvent, ça peut les révéler pour une voie ou pour une autre. Et on ne le fait pas. Enfin, on ne nous le demande pas, surtout.
Oui.
Ou très peu. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que, voilà, moi, par exemple, ça a été le hasard que je rentre dans la coiffure. Je n'étais pas, comment voulez-vous que je veux être coiffeur ? Je ne connaissais rien. Mais je pense qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont dans ce cas-là et qui ont avant c'était un peu plus tôt, mais là ils ont 20 ans, ils savent toujours pas. Et je pense que ça peut être...
Et donc, que leur dites-vous aujourd'hui? Quel message pouvez-vous...
Il faut, ce que je leur dis déjà, il faut essayer de s'intéresser aux choses. Il faut être curieux. Oui. Curieux. Ils ne sont pas curieux.
Oui.
Ils ne sont pas curieux. Voilà, ils se laissent un peu vivre. Bon, on verra demain, quoi. Voilà. Il faut être curieux. Et si on est curieux, eh bien, les gens vont automatiquement... vous parlez, ils vont venir à vous et vous allez pouvoir échanger et puis leur poser toutes les questions que vous pourriez avoir, quoi, pour choisir une voie ou une autre. Quoi. Aujourd'hui, voilà, tout le monde veut faire soit du digital, soit du marketing, soit tout ça, mais bon, y a des métiers d'artisanat. C'est riche à tous les niveaux, comme on vient d'en parler, c'est riche à tous les niveaux. Et puis on peut monter son entreprise, on peut voyager, on peut aller dans le monde entier. Voilà. Nous, avec notre métier, il suffit d'une paire de ciseaux, d'un peigne, et on va partout dans le monde. Et en plus, on a la chance d'être à Paris, donc d'être en France, donc le côté mode... De la France, de Paris, on s'exporte très bien. On peut aller travailler aux États-Unis, en Australie, enfin un peu partout. On peut faire avec notre métier-là, aller si on a envie de travailler dans le cinéma. Enfin, c'est un métier extraordinaire. Donc moi, j'ai envie de leur vendre ce métier parce que je sais que il y a vraiment tout ce que vous pourrez trouver dans la vie. Alors évidemment, quand on vous dit la coiffure, c'est un petit métier la coiffure, mais pas du tout. C'est le deuxième métier de l'artisanat et vous pouvez monter de très belles entreprises et dans le monde entier et voyager, vous épanouir. Moi, ça a été mon cas. C'est pour ça que j'en parle vraiment avec sincérité parce que j'étais là, je savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai découvert tout ça et vraiment, je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, ben je le referais.
Franck Provost, un très grand merci pour ce moment.
C'était un plaisir.
Ah, vraiment, merci pour la profondeur de vos mots. Merci de m'avoir reçu.
C'était un plaisir.
Et je voudrais terminer.
Ça a été difficile de trouver un peu le créneau, mais on y est arrivé.
Et voyez, la persévérance. Et je voudrais terminer par le grand philosophe Hegel. Qui, je cite Hegel parce qu'il me semble que cette citation vous caractérise beaucoup. Rien de plus grand ne s'est fait dans le monde sans passion. Franck Provost, merci d'être passionné.
Toujours la passion.
Toujours la passion. Merci beaucoup et tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022.
Merci à tous vos auditeurs.
Voilà.
La même chose. Et puis à vous aussi.
Merci beaucoup. Et les amis, merci beaucoup. Meilleurs voeux à vous et à vos proches. Merci Franck Provost.